Territoire d'info, l'actualité en français du Grand Nord canadien, avec Thomas Etier.
Bonjour, ici Thomas Etier, journaliste pour Média Ténois. Bienvenue à Territoire d'info, votre émission hebdomadaire sur l'actualité des territoires du Nord-Ouest et du Grand Nord canadien. Voici ce qui a retenu notre attention cette semaine. Les commentaires controversés émis publiquement à l'automne 2021 par le conseiller Nils Kong enfreignent le code d'éthique du conseil municipal de Yellowknife. Le commissaire à l'intégrité de la municipalité, Sheldon Toner, a émis cette conclusion dans un rapport d'enquête dévoilé le 10 février. Le commissaire s'est fondé notamment sur les plaintes de 6 résidents formulées dans la semaine suivant les déclarations du 1er novembre. Dans son rapport, le commissaire parle notamment de commentaires insouciants et insensibles émis sans égard à des injustices du passé, mais également au racisme systémique persistant qui affecte toujours les personnes et les communautés inuites, métisses, des Premières Nations et noires. M. Toner se garde toutefois de parler de racisme. Selon le commissaire, le premier commentaire, émis le 27 septembre 2021 par Nils Kong, n'aurait probablement pas à lui seul débouché sur davantage de procédures. On peut lire dans le rapport que le fait qu'il ait contrevenu aux standards éthiques du Conseil à 2 reprises, et ce en une courte période de temps et de la même manière, appelle à considérer des sanctions.
Kind of like the 60 scoop, right? Government side, we're going to take these Aboriginal children and we're going to take them away. These small businesses are being shut down by government.
Lors d'une rencontre du Conseil, M. Kong a comparé le sort des petites entreprises de Yellowknife durement affectées par les règles sanitaires à celui des victimes de la rafle des années 60. Le conseiller a présenté ses excuses au cours de la même rencontre. C'est une récidive qui a provoqué la tenue de l'enquête du commissaire. Lors de la rencontre du conseil municipal du 1er novembre 2021, M. Kangay a comparé le système de preuve vaccinale à l'interdiction de s'asseoir à l'avant d'un autobus.
You know, I mean, I don't think we have to go back very far, and there was people in Canada who would sit at the front of the bus, and we would, you know, they weren't allowed to sit there. It wasn't for them, and I think we're doing the same thing here.
Des propos qui évoquent les politiques racistes imposées jusque dans les années 50 à la population noire de certaines villes d'Amérique du Nord. Selon ce qu'on lit dans le rapport du commissaire, M. Kangay tentait ainsi de faire valoir qu'une politique de preuve vaccinale serait injuste pour les jeunes de moins de 18 ans qui n'ont que peu de pouvoir sur leur statut vaccinal. Il a présenté des excuses officielles lors de la rencontre du 8 novembre. La mairesse de Yellowknife, Rebecca Alty, a condamné ces derniers propos au lendemain de la rencontre. Dans un message publié le 2 novembre sur Facebook, la mairesse a ensuite eu une discussion avec le conseiller. « Monsieur Kangay m'a semblé reconnaître la nécessité d'émettre des comparaisons appropriées », aurait-elle indiqué au commissaire dans le cadre de l'enquête. L'administratrice municipale, Sheila Bassikellet, aurait pour sa part déploré les propos du conseiller dans un courriel envoyé le 2 novembre à l'ensemble des employés municipaux, courriel qui a été inclus au rapport du commissaire. « C'est mal, c'est raciste et ce n'est pas acceptable », lit-on. Pour ceux d'entre vous qui ont été directement touchés par ce commentaire, je suis profondément désolé, cela ne représente pas les valeurs défendues par la municipalité de Yellowknife. Madame Bassikellet aurait indiqué avoir discuté avec M. Kangay et croire sincèrement qu'il éprouve des remords et qu'il comprend à quel point ses commentaires étaient déplacés. Lors de son entretien avec le commissaire à l'intégrité dans le cadre de l'enquête, Nils Kangay aurait reconnu d'emblée que les 2 commentaires étaient inappropriés et aurait exprimé sa volonté de suivre une formation de sensibilisation culturelle et de lutte contre le racisme. Le commissaire à l'intégrité, dans son analyse des propos tenus par le conseiller, apporte des nuances aux accusations de racisme lancées par les 6 plaignants. Il affirme que les commentaires de M. Kangay ne constituent pas un cas de racisme, mais bien un cas d'insensibilité à l'égard de personnes racisées. Le commissaire recommande que l'une des 2 sanctions prévues au règlement municipal soit imposée au conseiller, soit l'émission d'un blâme public ou le retrait de M. Kangay de l'une des rencontres du conseil. La décision revient aux membres du conseil municipal. Les ministères et organismes gouvernementaux des territoires du Nord-Ouest ne prendraient pas les dispositions nécessaires pour faire respecter les droits des locuteurs autochtones du territoire. La commissaire aux langues des territoires du Nord-Ouest, Brenda Gauthier, a émis cette conclusion dans le cadre d'un témoignage partagé le 17 février, et ce, à titre d'ancienne employée du gouvernement des territoires du Nord-Ouest. La commissaire comparaissait devant le comité responsable de la révision de la loi sur les langues officielles. Brenda Gauthier cumule plus de 30 ans de carrière au sein du gouvernement des TNO.
I believe, just like every other government employee, I did not know the legislation at the time.
Comme bien d'autres employés au gouvernement, je ne connaissais pas la loi sur les langues officielles, a-t-elle souligné au comité de révision.
We often asked, what are we supposed to do when someone comes to us speaking another language other than English? To add this, we didn't know where we're supposed to take our concerns.
Nous avons souvent demandé que devons-nous faire lorsque quelqu'un s'adresse à nous dans une autre langue que l'anglais et qui plus est, nous ne savions pas à qui rapporter ces préoccupations.
There was often discussion amongst us employees, often asking, why don't we hear GNWT employees speaking the indigenous languages in the office? Why aren't the GNWT employees and ministers using translators when they go into the communities to meet the people or the various indigenous governments?
En discutant entre employés, nous nous demandions souvent pourquoi n'entendons-nous pas d'employés du gouvernement parler des langues autochtones au bureau et pourquoi les employés et les ministres du gouvernement n'ont pas recours à des interprètes lorsqu'ils visitent les collectivités.
The biggest issue with the legislation is that it applies to government institutions, yet the government employees in these institutions are not aware of the role they are to be providing or where they're to get direction.
Le plus gros problème avec la loi, résume la commissaire, c'est qu'elle s'applique aux institutions gouvernementales, mais que les employés de ces institutions ne sont pas au courant des services qu'ils sont censés offrir, ni de la manière d'obtenir des directives quant à ces services. Madame Gauthier déplore notamment que les critères entourant la demande significative, soit le paramètre qui détermine qu'un service doit être offert dans la langue autochtone d'une région, ne soit que vaguement défini. Une personne n'a qu'à rouler une heure de Bechoko à Yellowknife pour perdre son droit d'être servi en klitschon, illustre la commissaire.
There's no definition of what significant demand is.
Il n'y a pas de définition du concept de demande significative.
I do know it's a huge problem when I am trying to inform the general public of their language rights. It's challenging because I can't explain.
Et c'est un énorme problème, indique Mme Gauthier, lorsque j'essaie d'informer les membres du public de leurs droits linguistiques. Je ne peux définir ce concept. Il en irait de même pour le principe d'offre active qui serait mal compris des employés du gouvernement. Selon la commissaire, la seule définition de ce concept au territoire du Nord-Ouest aurait été définie par le secrétariat aux affaires francophones. Selon ce qu'on peut lire dans les normes du GTNO sur les communications et les services en français, l'offre active est une manière d'accueillir les membres du public et de leur signifier qu'ils peuvent demander une information ou un service du gouvernement en anglais ou en français. L'offre active peut prendre la forme d'une affichette, d'une salutation ou d'un message enregistré. Cette définition ne serait pas accessible aux autres communautés linguistiques du territoire, selon la commissaire.
This is not something you see or hear anywhere else in the government institutions.
C'est une chose dont on n'entend parler nulle part ailleurs dans les institutions gouvernementales, indique-t-elle. Brenda Gauthier dit être consciente que ses commentaires concernent essentiellement les langues autochtones.
But we're living in a time in which there's a lot of focus on the indigenous languages throughout the world and in Canada.
Je ne veux pas diminuer l'importance du français, a-t-elle indiqué au comité, mais nous vivons à une époque où beaucoup d'attention est portée vers les langues autochtones dans le monde et au Canada.
And I'm also hoping when these changes are made to the legislation to strengthen recognition of the indigenous language, this impacts the French language as well.
J'espère que lorsque ces changements seront apportés à la loi pour renforcer la reconnaissance des langues officielles, poursuit Brenda Gauthier, ceci aura également un impact sur la langue française. Après quelques semaines passées à la tête de la santé publique des territoires du Nord-Ouest, le Dr André Corriveau, administrateur en chef de la santé publique des TNO, s'apprête à rendre les rênes à la Dr Camille Candola. J'ai eu la chance de discuter avec lui cette semaine de la levée prochaine de nombreuses mesures sanitaires, alors que les territoires du Nord-Ouest apprennent tranquillement à vivre avec la COVID-19.
Peut-être nous parler de la situation actuelle. Comment se porte notre système de santé publique aujourd'hui? On est à peu près à la mi-février. Est-ce qu'on commence à souffler un peu? Est-ce qu'on peut dire qu'Omicron est derrière nous?
Il n'est pas derrière nous, mais on commence à voir venir la vague descendante. On avait une centaine de cas par jour depuis 3-4 semaines. Ça commence à diminuer. Le modèle disait que ça commencerait à diminuer vers la mi-février. Ensuite, on s'attend à une diminution assez rapide, ce qui est déjà visible presque partout au Canada en ce moment. Le fait que Omicron cause un petit peu moins de maladies sévères que le Delta. Puis on bénéficie relativement parlant, un haut taux de vaccination. On a passé le cap de 80% à 2 doses, puis de 50% à 3 doses. Alors, ça a un gros impact sur la transmission, mais surtout pas tant sur la transmission, mais sur l'impact de maladies sévères. Alors, on a eu beaucoup moins de décès reliés à Omicron à date ou d'hospitalisation comparé aux vagues précédentes. Puis là, il n'y a pas de. Même s'il y a un nouveau variant de Omicron, qui est une sous-souche d'Omicron, le BA2, là, qui commence à se poindre un peu partout, ça ne semble pas causer d'effet. Même s'il se transmet un petit peu plus facilement, il n'y a pas d'impact sur la sévérité ou sur l'immunité. Alors, il n'y a pas vraiment de différence avec le variant précédent, sauf la transmissibilité qui est un petit peu accrue.
Mm-hmm.
Alors, on s'attend à ce que les choses vont s'améliorer rapidement là, dans le prochain mois.
On semble prêt là, à lever l'état d'urgence sanitaire dans les prochaines semaines, normalement. À dissoudre le secrétariat de réponse à la COVID-19. Et on a quand même subi 3 éclosions en moins d'un an, là, comme ailleurs au pays. Là, on s'apprête à relâcher les mesures, mais on sait que tout de même que notre système de santé dans le Grand Nord est beaucoup plus fragile. Et est-ce qu'on sent, oui, que toutes les ressources sont en place? Qu'est-ce qui a changé, en gros, pour qu'on se sente aujourd'hui en confiance d'aller de l'avant comme ça?
Comme tu disais... on va y aller de façon prudente là, au cours des prochaines semaines. Certainement, l'urgence sanitaire ne sera pas levée après la relâche de mars, parce qu'il y a toujours, il va y avoir beaucoup plus de voyageurs à ce moment-là, puis on veut voir l'impact que ça a. Évidemment, si le nombre de cas dans le sud a diminué de beaucoup, c'est probable que l'impact ne sera pas trop grand, mais on veut, certainement, c'était le plan que Dr. Candola avait mis de l'avant, même avant qu'elle parte en vacances, de relâcher de façon graduelle, puis d'attendre après la relâche de mars pour lever l'ensemble des mesures de santé publique obligatoires. Il va demeurer des recommandations parce que c'est Omicron COVID ne disparaîtra pas. Mais on est en beaucoup meilleure position. Comme j'ai dit, on a un haut taux d'immunité dans notre population, tant par la vaccination que par le fait qu'il y a des gens qui ont fait la maladie. On a eu presque au-dessus de 6000 personnes qui ont été infectées avec Omicron depuis le début de décembre.
Et ça, on en tient compte. On tient compte de l'immunité des gens qui ont attrapé la maladie.
Oui, absolument. Ça va entrer en ligne de compte. Avec Omicron, le fait d'avoir fait une maladie avant ne protégeait pas complètement contre la maladie, mais protège. Omicron a causé des réinfections, même dans des gens qui avaient été infectés par Delta et par les gens qui avaient été immunisés dans le passé. Mais les infections préalables ou la vaccination protège contre la maladie sévère parce que le système immunitaire, même s'il ne réagit pas rapidement au début quand c'est au niveau du nez puis de la gorge, ça prévient quand même que le virus se rende dans d'autres endroits du corps comme dans les poumons ou dans d'autres organes qui causent des réactions sévères. Alors, ça a un gros impact à plus long terme, puis on va pouvoir bénéficier de cette immunité-là collective, même si elle n'est pas complète.
Donc, comme je le disais, les ressources vont être différentes là, prochainement si tout va de l'avant comme prévu. que le secrétariat est dissous, que l'état de santé, l'état d'urgence sanitaire est levé. S'il y a un nouveau variant, disons un variant comparable au variant Delta l'été prochain, par exemple, à quoi est-ce que devrait ressembler la réponse de la santé publique et du gouvernement des territoires du Nord-Ouest?
Ils sont en planification, puis ça va être complété quand Dr. Candela va être de retour la semaine prochaine. Alors, je peux pas vous donner exactement ce qui va être fait, mais ce qui est en planification vraiment, c'est de s'assurer qu'on a les ressources de base pour une réponse à des éclosions au niveau des communautés. On va garder des capacités pour pouvoir maintenir une surveillance, d'avoir des ressources pour organiser une réponse temporaire autour d'une éclosion. Puis on sait que dans le Nord en particulier, ça vient pas partout en même temps. Alors on a vu en particulier avec le Delta, ça venait dans une région, puis là il y avait une grosse éclosion, là, ça passait à une autre région. Puis on va continuer à s'assurer que on maintient le taux d'immunité vaccinale à jour. Alors, c'est possible que s'il y a un nouveau variant qui se présente, mettons, à la fin de l'été ou début de l'automne, qu'il y ait une recommandation pour avoir une autre dose de rappel du vaccin. Alors, on va s'assurer qu'on a la capacité de pouvoir offrir une dose de rappel pour ramener le niveau d'immunité à son maximum. Parce qu'avec le temps, il y a toujours une baisse du niveau d'anticorps dans le sang. Notre corps ne produit pas des anticorps de façon continue s'il ne sent pas le besoin de le faire.
Bon, la troisième dose semble avoir été moins adoptée que les deux premières doses. Est-ce qu'on va compter sur cette dose de rappel-là à elle seule? Est-ce que peut-être que ce serait l'occasion de parler de Paxlovid, par exemple? Quelles seront les ressources dont on va disposer à l'avenir là, pour s'assurer de freiner une potentielle éclosion et d'épargner notre système de santé?
Oui, absolument. Alors, on a des antiviraux qui commencent à être disponibles. Alors, le Paxlovid vient d'arriver. Il va en avoir d'autres. Alors, on va s'assurer d'avoir des réserves de ces médicaments-là, mais qui vont être utilisés pour les personnes à risque de maladies sévères, en particulier ceux qui ne sont pas immunisés ou qui n'ont pas fait d'infection dans le passé. La disponibilité de ces médicaments-là va aller en augmentant. Alors, c'est une autre arme dans notre arsenal et on va certainement l'utiliser à bon escient dans des vagues prochaines.
Vous avez parlé récemment de santé mentale. Au printemps 2021, là, il y a un peu moins d'un an, on fermait les écoles, on envoyait des milliers de personnes en isolement. Récemment, vous avez dit que les méfaits des fermetures d'écoles sur la santé mentale et le développement des enfants sont plus dommageables que la COVID-19 elle-même. Est-ce qu'on a un nouveau point de vue sur les politiques de santé publique? À quel point est-ce que ça a évolué sur ce plan-là?
Ce que je dirais là-dessus, c'est que dans les premières vagues de la COVID, les mesures de santé publique étaient très importantes parce qu'on avait ni vaccins, ni antiviraux. On avait un système de santé qui débordait partout puis qui avait des gros impacts sur les ressources qui étaient utilisées pour traiter les gens avec des COVID sévères n'étaient plus disponibles pour d'autres types de soins médicaux qu'on dit plus électifs ou mais quand même, tu sais, déjà, il y a eu des retards importants qui ont résulté de ça en termes de dépistage puis de traitement de cancer, des remplacements de hanches puis d'autres problèmes médicaux. Alors, ça a un gros impact sur d'autres services de santé. Mais avec le temps, premièrement, on a reçu les vaccins qui sont très efficaces pour prévenir les infections sévères. On a, comme tu disais tout à l'heure, on a accès maintenant à des antiviraux de façon toute récente, mais qui va probablement aller en améliorant. Alors, on n'est plus dans la même position. Alors, la balance des risques et des bénéfices, elle change avec le temps aussi. Puis, c'est ça auquel on doit tenir compte. Puis, on va continuer à recommander aux gens de s'isoler s'ils sont malades, de pas aller, que ce soit la COVID ou l'influenza ou d'autres, la bonne pratique d'éviter de transmettre une maladie infectieuse à d'autres personnes autour de nous qui peuvent être plus vulnérables demeure importante. Porter un masque si on va en public puis qu'on se sent pas bien, ça a encore une valeur importante. De se laver les mains plus souvent, de faire attention quand on voyage. C'est toutes des pratiques qui avaient été rendues obligatoires, mais qui vont devenir plus des recommandations de se tenir au courant de ce qui se passe.
Et ailleurs dans les provinces, on commence à lever, disons, le système de passeport vaccinal, oui. le système de preuve vaccinale. Est-ce qu'on est prêt au territoire du Nord-Ouest à lever notre système de preuve vaccinale?
Certainement, ça va se faire ici aussi au cours du prochain mois, probablement. Là. Comme je vous disais, je suis ici de façon temporaire. J'étais juste pour donner un coup de main à Dr. Candola qui a pu se prendre quelques semaines de vacances, mais... Elle va être de retour lundi, puis c'est des décisions qu'elle va prendre en termes de timing de cette mesure-là. Mais oui, c'est dans le plan du territoire, comme c'est ailleurs aussi.
Parfait. Donc, bien évidemment, on va continuer à faire le suivi avec notre administratrice en chef de la santé publique, André Corriveau, administrateur en chef de la santé publique par intérim. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Ça fait plaisir. Bonne journée à toi et à tous les auditeurs.
Il a été question cette semaine de délimitation des circonscriptions électorales des territoires du Nord-Ouest. Une commission se penche présentement sur la carte électorale du territoire, comme elle le fait tous les 8 ans. Un rapport sera déposé, puis il va passer par un vote à l'Assemblée législative. Pour nous en parler en détail, j'ai avec moi Lambert Barrault-Guinet, journaliste à Média Ténois. Bonjour Lambert.
Bonjour Thomas.
Lambert, la commission a publié un rapport provisoire et a mené également des audiences publiques ce mardi 15 et mercredi 16 février. En bref, on parle de fusionner des circonscriptions, de diminuer le nombre de députés. Pouvez-vous nous expliquer la situation, Lambert?
Alors effectivement, Thomas, ce rapport récapitule la situation actuelle des circonscriptions territoriales et propose 2 options différentes pour les prochaines élections. Pour résumer, la première solution serait de conserver le nombre de 19 députés et donc de 19 circonscriptions en ajustant de manière mineure les limites entre elles. La seconde option serait au contraire de retirer des sièges, notamment aux villes de Yellowknife, de Hay River et d'Inuvik, pour ramener le nombre total à 16 députés. Globalement, les questions relevées par le rapport sont concentrées autour de l'équité du traitement démocratique entre les différentes circonscriptions, certaines étant surreprésentées, alors que d'autres sont à l'inverse sous-représentées.
Qu'est-ce qu'on entend, Lambert, par des circonscriptions qui sont sous-représentées ou qui sont surreprésentées?
Alors, pour bien comprendre le problème, il faut reprendre dès le début, si vous me permettez, Thomas. Aujourd'hui, les territoires du Nord-Ouest sont découpés en 19 districts, mais comme la population n'est pas répartie de manière homogène à travers le territoire, les circonscriptions ne comptent pas du tout le même nombre d'habitants. Pour vous donner un ordre d'idée, les 4 principaux centres urbains des TNO, que sont Yellowknife, Inuvik, Hay River et Fort Sim, regroupent près de 70% de la population et ont 12 des 19 sièges à l'Assemblée législative. Les 7 autres circonscriptions correspondent donc au regroupement des collectivités réparties à travers le territoire et qui comptent pour 1/3 de la population et sont représentées par 7 sièges. Globalement, ça peut sembler équilibré, mais quand on regarde en détail, les disparités sont importantes. Les TNO comptaient au 1er juillet 2020 45 000 habitants et 19 députés, c'est-à-dire qu'en moyenne, un député représente 2 400 personnes. Or, la plus petite circonscription actuelle, le Dedsho, ne compte que 1 200 habitants, soit moitié moins que ce nombre qui est représentatif d'une représentation équitable. Mais il faut quand même qu'elle soit représentée. Alors, il existe, pour ce type de situation, une clause dite de circonstances exceptionnelles qui autorise l'existence de circonscriptions dont la population est soit plus élevée, soit moins élevée que la moyenne territoriale. Il est reconnu qu'une unité géographique, linguistique ou culturelle est une bonne raison de conserver ce statut de circonstances exceptionnelles pour certaines circonscriptions, comme c'est notamment le cas pour le Dedsho et pour d'autres.
Mais Lambert, pourquoi ces changements-là s'imposeraient maintenant dans la carte électorale des territoires du Nord-Ouest?
Alors en fait, la première raison est assez simple, c'est l'évolution de la démographie et de la répartition des populations. Au TNO comme partout, les gens bougent. C'est aussi pour ça que cette commission se réunit tous les 8 ans, donc toutes les 2 élections territoriales, pour les réviser. Mais au-delà de ces ajustements de frontières, qui peuvent paraître relativement simples, le rapport propose aussi de transformer la répartition des sièges, voire leur nombre. Et c'est la fameuse seconde option du rapport qui propose de diminuer le nombre de sièges. Il propose d'en retirer 3 à l'Assemblée législative. Et les 7 circonscriptions de Yellowknife seraient redécoupées pour n'en faire que 6. Et les 2 circonscriptions qui composent à la fois Inuvik d'un côté et Air River de l'autre seraient fusionnées pour ne conserver qu'un siège par localité.
On comprend bien donc où est le débat entre ces deux options. Lambert, vous avez évoqué également des changements un peu moins radicaux. Quels sont-ils?
Alors effectivement, je le disais un peu avant, au-delà de la question du nombre de représentants à l'Assemblée législative, la Commission propose dans tous les cas de redessiner et d'ajuster légèrement les limites des circonscriptions, surtout dans le cas où on resterait à un modèle à 19 sièges. Dans cette configuration, les limites des circonscriptions de Yellowknife, Day River et d'Inuvik seraient ajustées pour les diviser équitablement. La collectivité d'Enterprise serait rattachée à celle de Hay River South et celle de Sambaque et de Jean-Marie River passerait de la circonscription d'une AND à celle du Dead Show.
Et Lambert, il y a des audiences publiques qui ont eu lieu cette semaine qui avaient pour objectif de permettre aux résidents de commenter le rapport, d'émettre leurs avis. Qu'est-ce qu'on retient de ces audiences publiques? On sait d'emblée là, que la municipalité d'Inuvik avait une position ferme.
Effectivement, Thomas. Alors, dans un premier temps, je voudrais souligner qu'il est possible de soumettre oralement ou par écrit toute remarque ou commentaire sur ce rapport jusqu'à la fin du mois de février. Alors, depuis la publication du rapport, 8 avis ont été émis. Globalement, peu de commentaires semblent en faveur de l'option B, notamment à cause d'un risque potentiel de déséquilibrer le travail législatif et exécutif et de la diminution de la représentation que ça représenterait pour la ville d'Inuvik. Effectivement, à la fois par écrit, mais également à l'oral, la ville d'Inuvik a partagé une lettre dans laquelle elle s'oppose fermement à cette seconde option. Cette lettre mentionne notamment l'importance de la double représentation que permettent les 2 élus locaux, qui peuvent être présents à la fois au gouvernement et dans l'opposition parlementaire. Et elle reproche également à cette option B de centraliser encore plus le pouvoir dans la capitale au détriment des régions du nord des TNO et plus particulièrement de la région du delta de Beaufort. Les autres avis sont partagés entre la peur d'une sous-représentation de la ville de Yellowknife, d'un trop grand nombre de cas exceptionnels à l'échelle du territoire, donc, dont on parlait précédemment, ou du potentiel manque de moyens humains et matériels en cas de diminution du nombre de sièges.
Il y a encore place à s'exprimer, comme vous le disiez, et au moment d'enregistrer, là, on est jeudi soir, il y a une autre audience publique là, qui est sur le point de commencer. Lambert Barrault-Guinet, merci beaucoup.
Merci beaucoup, Thomas.
Le mois de février, c'est le mois de l'histoire des Noirs. Dans les territoires, dans les 3 territoires, comme partout ailleurs au Canada, les événements et les discussions organisées par les organismes portent haut et fort les voix de ces personnes qui façonnent le Grand Nord canadien. Pour nous en parler, j'ai au bout du fil ma collègue Nelly Guédessi. Bonjour Nelly.
Bonjour Thomas.
Nelly, vous êtes, comme on le sait, au Yukon. Vous avez fait un peu le tour de ce qui se passe là, dans le Grand Nord canadien. Cette année, à quoi ressemble ce mois de célébration de l'histoire des Noirs dans le Grand Nord?
Alors, au Nunavut, c'est la Société de l'histoire des Noirs, la Black History Society, qui a mis en place certaines activités. Cependant, avec la pandémie, les activités cette année sont proposées en ligne. La Black History Society a aussi mentionné que... À cause de la COVID, il y a un petit retard dans le calendrier, la mise en ligne du calendrier des activités, mais il ne faut pas s'inquiéter, les activités auront lieu donc sur Internet d'ici la fin du mois de février.
Et de notre côté, au territoire du Nord-Ouest, on tente de joindre la coalition Back Up North. On vous en parlera sans doute la semaine prochaine. Nelly, quel regard les personnes noires des territoires à qui vous avez parlé portent sur le mois de février, là, sur ce mois de l'histoire des Noirs?
Alors, j'ai remarqué que les avis étaient plutôt nuancés d'une personne à l'autre. J'ai eu l'occasion d'avoir une longue conversation avec Muriel Jacinthe, qui vit à Iqaluit depuis 2014 et qui travaille au sein du gouvernement du Nunavut. Je vous laisse écouter quel sentiment elle ressent face à cette commémoration.
Ça m'a toujours été en fait une grande joie de pouvoir célébrer mon héritage en fait et en même temps de célébrer, de partager avec les gens et d'apprendre du même coup. On n'apprend pas vraiment ce qu'il en est dans les livres d'histoire canadiens ou quoi que ce soit, donc... Cette célébration permet aussi énormément d'apprendre et de se regarder avec fierté.
C'était Muriel Jacinthe, résidente d'Iqaluit depuis 2014.
Alors, au Yukon, j'ai eu l'occasion de parler avec Paige Gallette, qui, elle, est un peu plus mitigée face à ce mois de célébration de l'histoire des personnes noires. Je vous laisse également écouter ce qu'elle pense de cet événement.
Ça fait un peu mal, c'est un coup dur de savoir qu'on célèbre et qu'on commémore seulement un mois, et un mois à la fois. Donc, c'est le mois le plus court de l'année aussi. Moi, personnellement, je le célèbre pas seulement comme commémoration, mais je le célèbre en faisant un retour sur une année, l'année précédente, voir où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on peut aller, où est-ce qu'on peut pousser, de voir aussi comment dans l'histoire, où est ma place et où est notre place en tant que société. Moi, j'appelle ça vraiment le mois de la commémoration de la libération des personnes noires, de la célébration des personnes noires, de la joie. En anglais, on appelle ça Black Joy, mais la joie des personnes noires. Les choses qu'on ne commémore pas trop. Je pense qu'on évite de voir comment, en tant que personne noire, en tant que communauté noire, on peut aussi grandir et fleurir et qu'on a une histoire de résilience qui est importante aussi à noter et à commémorer en même temps.
C'était Paige Gallette, résidente du Yukon. Finalement, Nelly, selon les personnes à qui vous avez parlé, quelles seraient les actions à prendre pour se diriger vers une société plus équitable et plus inclusive dans le Grand Nord canadien?
Alors, pour Muriel Jacinthe, Muriel estime en fait que chaque individu a la responsabilité de s'informer et d'apprendre au contact des autres, mais il y a une certaine façon de le faire, donc je vous laisse également écouter ce qu'elle en pense.
Il y a aussi le fait de partager avec les gens, parce que pour pouvoir œuvrer à enrayer le racisme systémique qui sévit dans notre société, l'un des moyens est aussi d'apprendre par le contact avec les autres. Et c'est par ce même contact-là qu'après, on a plusieurs réalités qui peuvent se rencontrer. Il peut se passer des communautés d'expérience entre les peuples. Puis donc, en tant qu'individu, on a une responsabilité d'essayer de s'informer. En fait, surtout pas en demandant sans arrêt aux gens qui vivent la violence du racisme systémique, de devoir tout expliquer aux gens qui veulent comme s'informer. Parce que ça fait une double violence, parce qu'il faut, justifier notre douleur et notre expérience.
Et sinon, pour Paige Gallette, qui est elle-même activiste et qui anime des ateliers sur l'antiracisme auprès des entreprises privées et des gouvernements du territoire du Yukon, mais partout ailleurs au Canada, selon elle, l'action militante doit se poursuivre pour faire bouger les lignes finalement, et c'est un travail constant qui devra se faire tant que, selon elle, les systèmes de colonisation seront en place dans la société canadienne.
Eh bien, merci Nelly. Comme je le disais, pour ce qui est des territoires du Nord-Ouest, on va tenter de joindre l'organisme Back Up North qui a été mis sur pied dans le cadre des manifestations entourant le mouvement Black Lives Matter en 2020. Nelly Guidessi, merci beaucoup.
Merci Thomas.
C'est tout pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Surtout, revenez-nous la semaine prochaine pour une autre émission Territoire d'info. Je suis Thomas Etier, journaliste de l'Initiative du journalisme local pour Média Ténois. Je vous souhaite une excellente fin de journée.
Territoire d'info. Une émission de l'Initiative du journalisme local financée par le Fonds canadien de la radio communautaire.